Nous entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons.
Le droit à l'IVG est à nouveau au cœur de l'actualité avec les discussions qui reprennent autour du projet d'inscription de l'IVG dans la Constitution. Nous avions déjà eu l'occasion de discuter dans un épisode précédent en compagnie de Lisa Carayon de l'enjeu d'une constitutionnalisation et plus généralement de l'accès à ce droit en France. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, le vote du Sénat n'a pas encore eu lieu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus en détail aux actions militantes du planning familial, que ce soit à travers l'éducation à la sexualité ou encore la prévention des violences, notamment sexuelles. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Francesca Bonsignori, salariée au planning familial de Strasbourg. Bonjour Francesca.
Bonjour Géraldine, merci beaucoup pour cette opportunité.
Alors, peut-être dans un premier temps, pour faire un peu mieux connaissance avec toi, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à travailler au planning familial ?
Donc, lors de mes études en Italie, je pense qu'on entend bien que je suis italienne ou qu'il y a un accent quelque part. J'ai fait des études de philosophie et grâce à des enseignantes de femmes qui ont beaucoup marqué mon parcours, j'ai connu le féminisme, l'expérience du féminisme. Et à partir de là, c'est quelque chose que j'ai jamais quitté. Je suis venue à la suite en France, à Paris, pour continuer les études de philosophie. Et là, j'ai eu la chance de suivre des cours en interne de Judith Butler, ce qui m'a porté une réflexion aussi par rapport au genre. Et puis, je me suis intéressée au contexte concret de la... et j'ai découvert le planning. Voilà.
Merci. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les missions principales du planning familial et comment il s'organise?
Alors, le planning familial, historiquement, est connu pour sa lutte en faveur du droit de choix, du droit à choisir pour l'IVG, donc l'interruption volontaire des grossesses, les droits à choisir quand avoir un enfant, si on veut un enfant, à quel moment, et donc toute la question de la contraception. Ça, c'est les deux axes historiques du planning. Il y a aussi la question de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, l'éducation à la sexualité. En France, il y a la loi Aubry 2001 qui prévoit pour tous les élèves 3 heures d'information par âge et par niveau lors de tous les parcours de la scolarité, donc maternelle jusqu'à la terminale, parce que c'est le parcours obligatoire. Donc l'éducation à la sexualité, le planning est très engagé sur cet axe-là, dans le sens que les intervenants, intervenantes du planning vont dans les écoles, collèges, lycées, parler des droits en matière de santé sexuelle. Quand je parle de santé sexuelle, c'est un axe qui est vraiment très large, donc on donne des informations par rapport à l'IVG, par droit à l'IVG, par rapport à la contraception, IST, donc infection sexuellement transmissible, mais c'est pas que ça. On parle beaucoup de consentement, on parle beaucoup de respect, on parle beaucoup de fait d'être avec les autres, on mobilise les compétences psychosociales. Et tout ça, ça constitue de la prévention en termes de santé sexuelle et de la prévention par rapport aux violences sexuelles et sexistes et aux violences des couples qui sont encore très très présentes aujourd'hui. Les plannings ont une posture intersectionnelle. Juste, c'est important de dire que les plannings familiales, c'est une association nationale qui se déploie dans tous les territoires de l'Hexagone et aussi outre-mer, avec des associations départementales. Il y en a 72, si je ne me trompe pas. Et on se réunit tous les 3 mois ou 4 mois à Paris sur un conseil d'administration confédéral.
Votre association, donc le planning familial, a dénoncé l'insuffisance justement des séances d'éducation à la sexualité et ses conséquences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, donc la question d'avoir 3 heures d'information sur les questions de santé sexuelle, je parle en termes de santé sexuelle parce que je trouve que c'est les concepts les plus larges qui expriment ce que c'est l'éducation à la sexualité. Et donc, ces séances-là devraient être à mesure des 3 heures par niveau et par âge. Or, il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites et on voit que ça n'est pas le cas. Donc, c'est vrai que les plannings avec des autres associations nationales ont mis en demeure l'État pour non-application de la loi Aubry. Pourquoi ces difficultés? Alors, Moi, j'ai un point de vue qui est un peu moins, qui est un point de vue de terrain, donc c'est un point de vue partiel, j'aurais envie de dire. Mais je pense que vraiment la question des moyens, c'est l'enjeu, hein, c'est le nerf de la guerre. Et après, il y a aussi une question de volonté. De mon point de vue, mais c'est toujours un point de vue de terrain partiel et tout ça, cette mise en demeure a donné quand même une impulsion à quelque chose. Parce que au niveau institutionnel, ça s'est réfléchi beaucoup plus, j'ai l'impression, depuis un an, la question de l'éducation à la sexualité. Après, la deuxième difficulté de la mise en place de l'éducation à la sexualité, c'est la question de la formation. Parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui s'improvise du jour au lendemain. Faire de l'éducation à la sexualité mobilise beaucoup de savoirs et de compétences. Ça veut dire mobiliser une classe qui ne t'attend pas, parce que on a peut-être une impression que les élèves sont là dans l'attente de 16 heures, mais pas du tout. Voilà. Ils ne t'attendent pas plus qu'ils n'attendent pas les cours de maths. Donc, tu arrives et tu débarques, tu as parlé de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, mais en même temps, tu les mobilises sur les plans publics, collectifs. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui est compliqué. Donc, il y a cette question de la gestion vraiment de la classe, etc., qui demande une formation, qui demande un savoir, une expertise. Et après, comment tu traites toutes les différentes thématiques dans l'espace une heure et demie, 2 heures, là, c'est à voir, de façon adaptée à l'âge, au groupe, parce que l'âge, c'est une catégorie très large. Après, tu as la réalité, c'est les groupes, c'est les élèves qui t'as devant toi. Donc, quel langage tu vas utiliser, comment tu mobilises, quel choix tu fais, parce que c'est toujours, tu peux pas faire tout dans l'espace une heure et demie. Bien évidemment, nous avons l'idée des thématiques et des contenus qui sont adaptés à des classes d'âge. On a un peu l'expérience. On va pas dans une classe de sixième avec les mêmes contenus que dans une classe de terminale. Mais voilà. Donc, ça serait intéressant aussi la question de la formation des enseignants et enseignantes. Je pense que c'est un véritable enjeu. Pourquoi pas des infirmières scolaires, plutôt infirmières, parce que, soit dit entre nous, c'est plutôt des infirmières. Voilà, c'est vraiment une réflexion.
Alors, c'est vrai qu'en t'entendant, on entend aussi l'expertise du planning familial, puisque là, à Strasbourg, bah, vous allez chaque semaine dans la réalité du terrain, comme tu dis, c'est chaque semaine assurer des séances qu'au final, personne d'autre n'assure. Moi, j'aimerais bien que tu développes sur, si des fois on se posait des questions au niveau de, si les auditeurs, auditrices se posaient des questions, quels sont les bienfaits d'une éducation à la sexualité adaptée de qualité, en fait. Pourquoi c'est si important?
L'éducation à la sexualité peut donner les moyens de vivre une vie affective, sexuelle et relationnelle qui est épanouie et qui est éloignée de la prise de risque. Donc nous, notre posture, c'est d'y aller d'une façon plus propositive. Je te donne un exemple concret. On peut parler de plaisir. On parle beaucoup de sexualité, sexe, on l'entend dans les cours d'école, dans la cour. Je sais que vous êtes toutes et tous confrontés à des contenus, à des propos, à des films, tout ce que vous voulez, c'est votre vie. Vous avez raison, mais finalement, qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Qu'est-ce que c'est cette vie sexuelle? Pourquoi on en parle autant? On trouve que la réponse entre pairs, c'est ce qui fonctionnait le mieux. Donc, on a un travail un peu d'hémaïeutique, on peut dire, on questionne et on attend les réponses. Et après, notre rôle, c'est celui de donner un peu une forme et un ordre à ce qui est sorti. Mais déjà, donner cette idée, oui, on a une vie affective, sexuelle et relationnelle pour le plaisir d'être avec l'autre, pour le plaisir d'être avec nous-mêmes, pour quelque chose qui est agréable et qui n'est pas désagréable. Parler de consentement, parler de respect. Le consentement, par exemple, cet objet qui est en question et en discussion maintenant aussi au niveau européen. C'est pas quelque chose d'anodin, parce que les consentements, ça vient pas du tout du champ des compétences de la vie affective sexuelle, c'était un terme juridique. Donc, c'est un terme qui n'est pas du tout évident, sur lequel il faut se mettre d'accord. Comment on l'exprime ces consentements, mais comment on les comprend aussi, quelles sont les questions qu'on peut poser à l'autre pour comprendre s'il y a ces consentements. Donc, tout ça, ça permet, par exemple, d'avoir des relations qui sont éloignée de la question de la violence. On explique aussi que dès qu'il y a de la violence, ce n'est plus du tout de la vie sexuelle, relationnelle et affective. Et après, on donne vraiment les informations plus concrètes. Donc, qu'est-ce que c'est une contraception? Qu'est-ce que c'est un dépistage? Quel est le droit? Par exemple, l'IVG, les jeunes ne savent pas trop quelle est la loi, quels sont leurs droits ou pas. Et avoir de la connaissance, ça permet d'avoir une emprise et la maîtrise sur sa propre vie, je trouve.
Alors, le planning a joué un rôle moteur hein, dans l'histoire du combat contre les violences faites aux femmes, hein, notamment les violences sexuelles. Alors, ce serait peut-être intéressant de voir comment ça se traduit concrètement au planning de Strasbourg en dehors des séances scolaires, puisque vous faites aussi des activités au sein même de vos locaux, hein.
Ici à Strasbourg, ce qui n'est pas non plus l'expérience de tous les plannings en France, mais ici on est vraiment spécialisé sur la question des violences sexuelles. Et donc nous avons deux groupes de parole, un groupe de parole qui commence aux alentours du mois d'octobre et qui se termine à la fin du mois de juin. C'est un groupe entre guillemets fermé dans le sens que c'est composé des mêmes personnes, c'est un groupe de parole traditionnel, hein, comme on s'imagine. Et après, nous avons un deuxième groupe de parole qui est un peu quelque chose que nous avons imaginé. C'est quelque chose que nous sommes en train d'expérimenter. Mais c'est un groupe ouvert. On donne la possibilité aux personnes de participer à une séance et pas venir à celle d'après. En même temps, la date du groupe de parole n'est pas publiée sur les réseaux sociaux, dans le sens que nous rencontrons toutes les personnes qui font demande de participer au groupe des paroles, et à chaque fois, on envoie la date par mail en demandant confirmation, parce qu'un groupe des paroles ne peut pas être composé de 20 personnes non plus, sinon les chances, ça se fait pas. Et c'est quelque chose qui est très important pour la question de l'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles, parce que ça permet de briser les silences, ça permet de rendre l'expérience du vécu de violence une expérience collective. Et dès qu'il y a une expérience collective, on arrive à trouver ensemble aussi les pistes d'action, les portes qui te permettent d'aller de l'avant. Et c'est un peu ça qui nous racontent les participantes du groupe des paroles. Ça permet aussi de comprendre ce que je vis ici et maintenant. Je ne le vis pas parce que je suis folle, mais c'est vraiment un symptôme du traumatisme que j'ai vécu avec la violence sexuelle. Ça permet de comprendre que, il n'y a pas une violence qui est plus légitime que l'autre. Du moment où j'ai eu une violence, ça m'a fait une blessure et donc j'ai besoin d'en parler. Et c'est pas parce que dans ma violence, il n'y avait pas de coups que je dois faire semblant que ça n'a pas eu lieu. Après, nous avons aussi, lors des entretiens individuels, en consultation médicale et en consultation avec les conseillères conjugales et familiales, nous faisons du dépistage systématique des violences. Traduit, ça signifie que nous essayons au moins de poser de façon quasiment systématique la question, des violences, tout en adaptant les langages. Parce que dire à quelqu'un, avez-vous été victime de violences? Ça peut parler, mais ça peut ne pas parler. Ça dépend d'où elle est la personne. Donc, on peut poser la question autrement. On a une grande réflexion au sein de l'équipe sur les langages qui doivent être à chaque fois adaptés à tout et chacun. Et après, nous faisons de la formation des professionnels, toujours sur la question des violences sexuelles. Donc, nous avons fait une formation aussi au Conseil sur la question de l'impact des violences sexuelles faites aux enfants.
Au Conseil de l'Europe, tu veux
Au
dire.
Conseil de l'Europe, pardon. Parce que nous avons aussi un peu développé la question des violences sexuelles faites aux enfants, la prévention, l'accompagnement. D'ailleurs, en novembre 2022, nous avons organisé une journée de colloque avec trois autres associations de Strasbourg, donc les CIDF, Thémis et Viaduc, c'est des associations d'accompagnement des femmes, des victimes. Et c'était une association pour prévenir, accompagner les enfants qui ont été victimes de violences sexuelles et d'inceste.
Merci. Alors effectivement, il y a le public, l'accompagnement des enfants victimes. Et puis peut-être c'est intéressant aussi d'aborder un autre, une thématique, en l'occurrence le handicap, puisque toi-même tu as fait partie d'un groupe de travail national sur le programme qui s'appelle Handicap et alors. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Donc, au niveau national, les actions de planning se déploient sous la casquette de différents programmes. Et effectivement, il y a un programme national qui s'appelle Handicapé alors, qui est un programme qui ouvre pour l'accès aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive pour les personnes en situation d'handicap. Donc, c'est un programme assez spécifique systémique dans le sens que l'idée, c'est que nous intervenons sur ces questions-là, du coup, de santé sexuelle auprès du public concerné par les différents handicaps. Donc, ça peut être des enfants, des jeunes, des adultes. Et on peut intervenir avec tout simplement des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ou avec des groupes de parole ou des entretiens individuels. Nous faisons la même chose auprès des familles ou de l'entourage. Nous proposons des formations des professionnels pour les établissements spécialisés, toujours sur ces questions de santé sexuelle assez spécifiques. Et en quatrième axe, nous intervenons dans l'accompagnement de la structure pour l'élaboration de la charte du règlement intérieur du cadre, qui est très importante parce que ça permet de protéger, de donner une structure et de protéger les professionnels. Parce que quand on parle des vies des santé sexuelle, on parle aussi des questions qui relèvent de son propre, sa propre morale, sa propre éthique et tout ça. Et donc, c'est important que la structure puisse avoir un cadre écrit pour que les professionnels puissent répondre de façon collective et que la réponse ne dépend pas de la morale, des points de vue, des opinions de professionnels.
Ce programme met aussi en lumière, je dis ça parce qu'on en parlait un peu plus tôt, la question des violences faites aux femmes aussi en situation de handicap. Et je sais que justement, lorsque vous faites des formations à destination des professionnels, notamment des professionnels de santé, vous abordez aussi ces thématiques-là. Est-ce que tu peux nous en parler, puisque
Oui.
c'est un facteur, on dirait, de vulnérabilité supplémentaire d'être en situation de handicap?
Avant de parler des femmes en situation d'handicap, ce qui est important de rappeler, c'est que les principales victimes de violences sexuelles, de violences tout court, ce sont les enfants, filles, et en particulier les enfants, filles en situation d'handicap. En général, les femmes en situation d'handicap sont plus vulnérables aux violences, en raison des différents facteurs. Donc, le premier, c'est lui qui est évident, même à penser, c'est la dépendance. La dépendance physique. Donc, au niveau du corps, pas toutes les femmes en situation d'handicap, parce que quand on parle d'handicap, on parle aussi de quelque chose qui est extrêmement complexe et complexifié. Mais, et puis, avoir des femmes qui sont, du coup, dépendantes pour les soins au quotidien des autres. Donc, dont le corps, il est touché par différentes mains en cours de la journée. Et des femmes, donc, pour qui c'est difficile de comprendre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Parce que si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas savoir. C'est ça aussi ce qui complique la question des violences, c'est qu'il faut savoir identifier une violence. Il y a déjà ces premiers facteurs de vulnérabilité. Les deuxièmes, ça peut être les facteurs économiques. Donc, on est en dépendance économique souvent de quelqu'un d'autre. Il y a eu tous les débats sur l'allocation adulte handicapé qui était prorata des revenus du couple. Donc, dans un couple, il y avait une personne en situation d'handicap qui prenait l'allocation adulte handicapé et les partenaires qui travaillaient. L'allocation adulte handicapé ne permettait pas de pouvoir se détacher du foyer et de vivre qu'avec ça au début, parce qu'elle était calculée sous la base des revenus en commun. Après, il y a la question, voilà, comme je disais tout à l'heure, de l'information. Il faut savoir que ce geste est OK parce que c'est un geste de soins. Ce geste-là n'est pas OK parce que ça ne relève plus de soins au quotidien. Il faut savoir que j'ai le droit de choisir la contraception que je veux, même si je suis en situation d'handicap. Mais pour savoir ça, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est la contraception. Et là, je parle du fait qu'encore aujourd'hui, beaucoup de femmes sont obligées d'avoir un implant, d'avoir un stérilet ou même d'avoir une contraception définitive, donc la ligature des trompes, parce que d'une façon ou d'une autre, elles sont amenées à ça sans qu'elles comprennent vraiment quels sont les enjeux derrière. Question de l'IVG, là aussi, je sais que ça, c'est compliqué, mais toute femme peut choisir si avoir un enfant, si faire une IVG, les mineurs aussi. Et une femme en situation de handicap a aussi ces droits-là. Les personnes en situation de handicap, souvent, ne sont pas scolarisées en milieu ordinaire, sont scolarisées dans les IME et tout ça. Donc, ça dépend vraiment de la volonté de l'établissement spécialisé en question de faire ces séances. Donc, beaucoup des enfants n'ont pas les droits d'avoir ces informations-là. À Strasbourg, dans les Barons, il y a beaucoup d'établissements qui sont vraiment engagés sur cette question et qui ont une réflexion et qui met en place des séances, ça, je voulais dire. La question de la plante. On sait très bien qu'aller porter plante, c'est déjà difficile pour toutes les femmes. C'est un peu le parcours de la combattante. Mais alors là, pour les femmes en situation de handicap, souvent, elles y vont accompagnées par le tuteur ou la tutrice. Donc, les personnes qui les accueillent au commissariat ou t'as des polices et tout ça parlent plutôt avec le tuteur et la tutrice. On n'a pas les outils adaptés pour comprendre et pour se faire comprendre dans ces lieux. Donc, souvent, c'est vraiment compliqué. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous avons à Strasbourg, hein, nous faisons à l'ESAT, qui est un établissement spécialisé pour travailleurs, travailleuses en situation de handicap. Nous avons des permanences individuelles, donc deux intervenantes de planning, une fois par mois, vont 3 heures à l'ESAT, et il y a des personnes qui ont pris rendez-vous, donc c'est un peu comme si le planning s'est déplacé. On a présenté les plannings, on a avec un PowerPoint qui était adapté, qui était compréhensible, et donc les personnes s'inscrivent eh bien, lors de ces permanences individuelles. Et ça nous a permis effectivement de recueillir déjà pas mal d'histoires, de vies. Et on voit que la gestion des violences, elle est vraiment quelque chose qui est commun, malheureusement. Et d'écouter, donc c'est un premier lieu où la parole peut être déposée. Ce qui déjà en soi, c'est quelque chose, je pense, qui est très importante. Et après, on a même réussi à faire venir des personnes ici au planning, donc avec un parcours en autonomie et tout ça. Et c'est un travail qu'on fait depuis 4 ans et qui est très enrichissant pour nous. Vu le nombre de personnes qui en demandent, je pense que c'est intéressant aussi pour les travailleuses et travailleurs.
Merci beaucoup. On entend surtout que, enfin, en t'entendant, on se dit que vous êtes sur beaucoup de fronts. Moi, je me disais que ce serait peut-être intéressant de t'entendre pour conclure peut-être ce que tu appelles de tes voeux et peut-être les difficultés générales, puisque là, l'IVG va être discuté cette année, parce qu'il y a à la fois la constitutionnalisation et l'année prochaine qu'il y a les 50 ans
Oui,
voilà,
la
de
loi
la loi
Veil.
Veil. Peut-être, voilà, on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire pour conclure?
Nous touchons à des grandes questions sociétales, historiques, théoriques, tout ce que tu veux. Mais je pense que le travail au quotidien, c'est ce qui nous porte tous les jours, parce que c'est un travail dans la réalité avec les personnes où on a l'impression que on pourrait vraiment, on pourrait souhaiter que l'IVG soit inscrite à la Constitution avec les mots droit, les mots personne. On pourrait souhaiter que la France et l'Allemagne et tous les pays d'Europe inscrivent les mots consentement dans la loi sur les viols. On peut souhaiter plein de moyens. On disait 2 milliards aux associations féministes. Moi, personnellement, je me souhaite de continuer encore longtemps ce travail parce que c'est un travail qui me donne vraiment du plaisir. C'est fatigant, quelquefois. Au niveau de la charge mentale, c'est fatigant, mais ça, c'est une question d'organisation en interne. Hein. On doit arriver à penser un peu moins. Mais après, vraiment, ce que je souhaite, c'est de continuer. Après, si on arrête, soit dit qu'il n'y a plus de problème, c'est bien aussi, toi. Mais j'ai pas de gros vœux. Un peu plus, c'est la seule chose, si l'handicap prenait, la question du handicap prenait un peu plus d'espace public.
Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet sur une musique originale de Nufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.